Tous les matins, je me lève.
L'émission des travailleurs de l'ESAT de Belmont sur Anse.
Avec Roselyne, Stéphane,
Frédéric et Joan.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission. Le principe, permettre à des travailleurs handicapés de porter leur parole sur les ondes de Radio Saint-Afrique. Au programme de cette première émission pilote, un reportage réalisé à l'automne à l'occasion de la montée impossible à Camarès, une fiction autour d'un film de science-fiction, La Porte du Passé, mais tout de suite c'est Roselyne qui ouvre le bal avec un texte de sa composition sur l'art délicat d'être ou de ne pas être au bistrot.
D'aussi loin que je m'en souvienne, je m'imaginais que les hommes ou les femmes qui fréquentaient les bistrots étaient des gens alcooliques, et j'y ai longtemps cru. C'est ce que mes parents me disaient quand j'étais petite. Maintenant, je ne le crois plus. Ce n'était pas toujours vrai. On va au bistrot, ou plutôt au café, pour se désaltérer. Oui, mais aussi pour chercher de la compagnie. Des personnes seules sont souvent dans des endroits comme cela pour oublier leur solitude en discutant avec d'autres personnes. Moi, par exemple, j'aime aller au bistrot pour avoir de la compagnie, pour pouvoir discuter avec des amis, pourquoi pas faire des connaissances. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai connu tous mes amis actuels sur Saint-Afrique. J'aime l'ambiance, ça discute, même si on ne se connaît pas, on se mêle aux conversations. À l'époque, j'allais souvent au pub occitan, pratiquement tous les jours, rue du Marché, enfin le boulevard Victor Hugo, vous savez. Une amie tenait le bar, très gentille. J'y allais surtout pour parler avec elle. La plupart du temps, je prenais un café, quelle que soit l'heure de la journée d'ailleurs. Aujourd'hui, je viens moins souvent à la ville. Quand je suis chez mes parents, il est rare qu'on me voie dehors, à Marciac, près de Rodez. Maintenant, je suis au foyer. Depuis un an, la solitude me pèse moins. J'ai moins besoin d'aller dans les bistrots.
Au bistrot, un texte écrit et lu par Roselyne. On change d'ambiance et de style avec maintenant un reportage réalisé par Stéphane et Frédéric. C'était fin septembre à Camarès, à l'occasion de l'événement sportif numéro 1 à cette période, la montée impossible. Une compétition de motocross riche en émotions et en crissements de pneus.
Bonjour, chers auditeurs, auditrices.
On se trouve à la carrière d'Ouïra, sur la commune de Camarès, où se déroule une manche de la montée impossible.
Bonjour, voilà Simon, j'habite en Aveyron, à Saint-Romain-de-Sernon. C'est ma deuxième montée impossible, ma première c'était à Rette, dans les Pyrénées-Atlantiques. Pour une deuxième, la moto marche bien, c'est pas mal. Oui.
La montée impossible, est-ce que c'est possible en fait?
Oui, c'est possible, la preuve, parce qu'il y en a qui montent. Après, c'est avec beaucoup d'années d'expérience pour apprendre à pour monter une bonne moto, savoir en fonction des terrains qu'est-ce qu'il faut adapter comme pneu. Le moteur aussi en fonction de comment on conduit. Si on conduit plus en trial, il faut un moteur vachement coupleux. Si on conduit plus comme en cross, il faut un moteur nerveux. C'est plein de choses qu'il faut. Le temps aussi.
Oui, oui.
Le temps. Manque d'adhérence. J'ai pas mis assez de boulons assez longs, ça le fait quand même, on est satisfait.
Comment vous entraînez-vous ?
Alors je m'entraîne, je fais de la motocross, ça fait 2 ans que je fais de la motocross. J'ai eu ça en entraînement. Et après, Jésus, c'est sa passion. Il est des costauds aux hommes en aviron, qui m'a aidé à monter la moto à une côte de montée impossible. Donc on fait tous les essais de la moto là-bas pour régler le moteur. Et tout. Et on s'entraîne aussi au passage.
C'est dangereux ?
Dangereux, dangereux. Ça dépend comment on dit la notion du mot dangereux, mais oui.
Mais parce que la moto vous tombe dessus...
Oui, voilà. Le plus gros risque, en fait, c'est que si la moto monte en l'air, qu'elle nous retombe dessus.
Ben, voilà, ouais.
Sinon, après, en principe, quand on voit qu'on ne monte plus, on couche la moto. Cette course,
ouais.
Et bien moi c'est Jésus qui m'a conseillé, en fait. Il m'a demandé, enfin il m'a dit, il vaut mieux que tu mettes des pneus à boulons, comme c'est vachement de cailloux et des cises, plutôt que des pneus à godets, parce que les pneus à godets c'est des pneus faits pour la terre, donc c'était plus approprié de mettre un pneu.
On avait des pneus spéciaux.
Ouais. Pour cette course.
D'accord. Est-ce que vous avez de la casse?
Non, j'ai pas eu de casse. Entre midi et 2h, j'ai réglé les carbus parce qu'avec le taux d'humidité, elle marchait pas bien la moto, mais sinon j'ai pas eu de casse.
D'accord.
Ça s'est très bien passé.
La montée est devenue vraiment impossible à cause de la boue. Sur 20 concurrents, il y en a un qui est arrivé jusqu'au bout de cette manche.
On habite à Seille et il y a quelques années il y avait eu une affiche, mais là cette année il n'y avait rien eu du tout. Donc c'est mon neveu qui m'a dit qu'aujourd'hui il y avait la montée impossible. Donc sinon on n'était pas au courant, pourtant on n'est pas bien loin. Donc on était un peu dégoûté, quoi.
Qu'est-ce qui vous plaît ?
La pluie. Non, je plaisante. Le spectacle, beaucoup. Puis en plus on est venu avec les enfants, donc c'est un régal. Et, sauf ces conditions météo, c'est dommage.
Ça vous tente de faire pareil ?
Non, même pas à pied. Quand je vois comment ils galèrent pour monter avec même les commissaires qui n'arrivent pas à tenir debout, non. Non, c'est pas mon truc. Je pense qu'il faut avoir une bonne condition physique et j'ai pas.
Il faut être un peu fêlé, non ?
Pour faire ça ? Oui. Fêlé mais courageux.
Ah oui, oui.
Bon. Même très courageux.
Il était
sur le côté.
Tu auras envie d'en faire ça plus tard ?
Oui.
ACDC, Highway to Hell. Merci à Frédéric et Stéphane pour cette immersion humide mais joyeuse dans l'univers de la montée impossible. Pour finir cette émission, place maintenant à Johan, cinéphile averti. Après avoir pu visionner le film La Porte du Passé, science-fiction basée autour des voyages dans le temps, il a décidé de tenter de raconter la suite de ce film à sa sauce et avec sa propre imagination. On l'écoute tout de suite.
David est un peintre célèbre, mais il est dépressif. Ses peintures se vendent de moins en moins. Il boit, il ne s'occupe plus de sa fille, Léonie, et trompe sa femme, Maya. Un jour où il y a la garde de sa fille, il allait seul à la maison pour aller voir sa maîtresse. Quand il revient chez lui, il découvre sa fille morte dans la piscine. 5 ans plus tard, on le retrouve au fond du trou, alcoolique, séparé de sa femme, qui essaie de reconquérir. En vain. Il décide de se suicider dans la piscine où sa fille est morte. Mais un ami le sauve au dernier moment. Toujours ivre, David finit par découvrir un tunnel qui ramène dans le passé, juste avant la mort de sa fille. Il sauve sa fille, mais il se retrouve nez à nez avec lui-même, son double du passé. Sans vouloir, il le tue sous les yeux de sa fille et décide de prendre sa place pour changer sa vie. Mais rapidement, il s'avère qu'il n'est pas le seul à être passé par le tunnel. Son voisin, des policiers et beaucoup d'autres personnes ont fait la même chose que lui. Entre 2003 et 2008, le passé et le futur, plus personne ne sait qui vient de quelle époque.
Voilà 5 ans que Maya et Léonie sont de l'autre côté du tunnel et vivent heureuses, avec aussi un petit garçon qu'elle a mis au monde, qu'elle a appelé Léon et qui a 4 ans. Et Léonie a 12 ans. On toque à la porte. C'était deux agents, Dan et Curtis.
Bonjour, agent Dan, et voici l'agent Curtis. Nous sommes détectives privés, nous enquêtons sur la disparition de votre mari, il y a 5 ans. Vous nous avez dit qu'il était reparti faire sa vie avec une autre femme, sauf que c'est impossible. Nous ne trouvons nulle part. Et nous avons fouillé partout, donc nous allons vous emmener avec nous pour un interrogatoire.
Les agents embarquent Maya, directement au poste.
Je vous l'ai déjà dit, je ne sais pas où il est parti.
Ne dites rien tant qu'on roule jusqu'au poste.
Dans une salle d'interrogatoire, ils discutent.
Bon, reprenons depuis le début. Alors, d'après mes sources, vous vous êtes débarrassé de votre mari parce que vous étiez séparés depuis que vous aviez perdu votre fille. Et aujourd'hui, on vous retrouve avec votre fille, plus un petit garçon. Moi, je pense que vous avez caché votre fille pour faire souffrir votre mari, pour l'éliminer plus facilement et pour faire croire qu'il s'est suicidé. Et là, vous dites qu'il est parti refaire sa vie. Là, j'avoue que je ne comprends plus rien.
Quoi qu'on vous ait dit, c'est faux.
Alors dites-nous la vérité.
Si je vous le dis, vous allez me prendre pour une folle. Vous tenez vraiment à l'entendre ?
Bien sûr qu'on y tient, on a toute la journée.
David a traversé un tunnel qu'il a transporté 5 ans en arrière, en 2003. C'est lui qui a sauvé notre fille du voisin qui voulait nous tuer. Et, par accident, il a tué le David de l'année 2003.
L'agent Dan baissa la tête, en se frottant les yeux.
Alors ça y est, vous avez conclu l'enquête ? Vous avez trouvé ça toute seule ?
Dit-il en se moquant.
Je vous assure que c'est la vérité.
Quelle vérité ? La vôtre peut-être ? Et d'ailleurs, il est où ce tunnel ? Parce qu'en venant, je n'ai rien vu autour de chez vous.
Laissez-moi vous y emmener, comme ça vous me croirez. Enfin, il y a un problème. Le tunnel s'est effondré.
Ah, j'ai compris maintenant. Vous avez caché le cœur de votre mari dans ce tunnel. Et vous avez fait tout disparaître.
Et comment aurais-je fait ? Avec des explosifs ? Croyez-moi, je n'ai pas une tête de terroriste.
Alors comment s'est-il effondré ce tunnel ? Non vraiment, je crois que vous me faites marcher. On va vous enfermer dans un hôpital psychiatrique. Et quand on aura retrouvé le corps de votre mari, vous serez jugé dans un procès.
Maya poussa des cris et s'exclama.
Ah ! Vous n'avez pas le droit de faire ça ! Je vous ai dit ce que j'avais à vous dire et vous êtes un sale flic ! Vous ne comprenez rien quand je vous dis que David est en vie.
Bon, ça suffit, agent Curtis, mettez-le en cellule. Jusqu'à ce qu'on vienne la chercher.
Aïe, la garce, elle me mord le poignet.
Vous n'avez qu'à la tenir comme il faut, Curtis.
8 années s'écoulent et Maya est toujours enfermée. Léonie, en famille d'accueil, ne supporte plus voir sa mère et son frère, qui est dans une autre famille d'accueil et qu'elle voit une fois par mois. Léonie doit se retrousser les manches pour changer tout ça.
à suivre dans le prochain épisode. Rendez-vous début février pour la prochaine émission sur les ondes de Radio Saint-Afrique. En attendant, vous pourrez réécouter celle-ci en podcast sur notre site radiosaintafrique.com.
C'était tous les matins, je me lève.
Une émission des travailleurs de l'ESAT de Belmont-sur-Anse.
Une coproduction de l'APCA
et de Radio Saint-Afrique.